Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il n'est pas chez nous, il est à Brest. C'est comme ça. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort.
Si je pouvais me sélectionner, je jouerais, je vous assure.
Je suis naturellement méchant. Je n'ai pas à me forcer. Je suis le grand méchant loup, voilà, bon, basta.
Je crois que Domenech est en fait l'entraîneur le plus nul du football français depuis Louis XVI.
Jusqu'à minuit, l'Afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'After, tout le monde, en direct jusqu'à minuit, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en podcast. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'entendre du Domenech sur 15 secondes et qu'on n'en parlera plus de la soirée. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Kevin Diaz est là, salut Kevin.
Salut à tous.
Et Lionel Charbonnier nous rejoint. Salut Lio.
Salut messieurs, salut à tous.
Ça va en pleine forme Lionel,
J'ai vu deux beaux matchs. Deux beaux matchs. Même Lens, j'ai beaucoup aimé, mais là ce soir c'était un vrai régal. Un vrai régal.
Et c'est une fin de série pour l'OM. Après 8 victoires consécutives, Marseille ne perd pas ce soir, mais fait match nul face à Monaco. Un partout. On va largement débriefer cette rencontre ce soir sur RMC, supporters marseillais monégasques. On vous attend au 32-16. Appelez-nous et venez débattre avec l'After. Quelques résultats à vous donner à l'étranger, tiens. Avant de dérouler le programme, sachez qu'en 16e de finale de Cup en Angleterre, Manchester United a battu Reading 3-1. Avec un doublé de Casemiro. En Espagne, le Betis a battu Retafe ce soir 1-0. Et puis en Italie, l'Atalanta a dominé la Sampdoria 2-0. Je vous indique qu'on sera ce soir avec Paulo Breitner, puisque le Bayern Munich ne gagne toujours pas. Troisième match nul consécutif, un partout face à l'Eintracht Francfort de Kolo Muani, qui a marqué d'ailleurs. Donc on sera avec Polo vers 23h45 et on sera également avec Fred Hermel puisque le Barça s'est imposé face à Gérone 1-0 et que Dembélé est sorti blessé. Il nous donnera quelques nouvelles tout à l'heure. On reviendra aussi, Lionel, en parler sur le match nul de Lens à 3 cet après-midi, un partout, Nîmes-Troyen, Lensois. N'hésitez pas, le 32-16, on en parle après le débrief de l'OM. Vous pouvez nous appeler et venir réagir. Tiens, moi je me demande si les Lensois doivent pas se réinventer face aux petits. Ils deviennent finalement un gros de ce championnat.
Pas mes points.
Ah,
t'es en train de me piquer mon point.
Ok, et ben on attend tes points et on en débat juste après. Un point mercato également ce soir, les gars, parce qu'il y a pas mal de mouvements à Paris notamment. Malcolm, intérêt réciproque. Skriniar est vraiment tout proche cette fois-ci. Ça bouge encore à Lyon ce soir. Donc un petit point mercato à vous donner ce soir. Un petit peu avant minuit, mais comme tous les soirs dans l'After, on commence par le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent l'essentiel, c'est le plus important.
Et juste avant d'avoir les points de Kevin et de Lionel, un point sur le rugby. C'est une grosse affiche de la 16e journée de Top 14. C'est un match incroyable à Paris, la Défense Arena. Racing 92, La Rochelle, Valentin Jamin.
Il est dingue ce match, encore 5 minutes à jouer, 36 partout puisque les Rochelais viennent de marquer un nouvel essai sublime de 70 mètres, une relance à la main de l'arrière Brice Dulin qui transperce un premier rideau et quand il entre dans le camp du Racing, il trouve à l'intérieur son demi d'ouverture Antoine Astoy, ce dernier aplati mais ne transforme pas, c'est pour ça qu'il y a 36 partout à 5 minutes de la fin.
A tout de suite Valentin pour le résultat, 23h, l'After, les 3 points de Lionel pour commencer.
Eh ben écoute, lorsque je vois l'intensité de nos matchs et de nos équipes aujourd'hui, on a eu la chance de voir le deuxième, le troisième et le quatrième du championnat, que je vois l'intensité des matchs, le rythme à l'intérieur, la qualité technique de ces équipes là, eh ben je dis que notre L1 elle est quand même pas si mal que ça. Même si pour mon point numéro 2, Lens, ça a été à l'arrache et que on voit les difficultés de Lens, enfin des Lensois lorsqu'ils jouent face à des blocs bas. Il va peut-être falloir changer quelque chose. Et puis mon point numéro 3, je mettrai deux joueurs en vitrine aujourd'hui, le plus âgé, 34 ans, Alexis Sanchez, et le plus jeune, Ben Seguir.
Les trois points de Kevin.
Écoute, premier point, ça va être ce match du soir. Hein. D'ailleurs, mes trois points sont sur le match du soir. Les Lensois m'en voudront pas. Cette équipe de Monaco qui a vraiment réussi à perturber l'Olympique de Marseille en faisant une énorme première mi-temps. Et ce sera mon point 2. Donc Ben Seguir, j'ai envie d'en parler parce que j'entends parler de beaucoup de pépites ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais des joueurs qui m'ont montré autant en 4 matchs, j'en ai pas encore vu beaucoup. Et en 3, bah, c'est l'Olympique de Marseille qui, après une première mi-temps ratée, parce que bousculé par un très bon adversaire, a réussi quand même à réagir grâce au changement et au très bon coaching de son entraîneur. Et on s'est régalé dans ce match de Ligue 1, et ça, ça fait plaisir.
C'était le troisième contre le quatrième, et si on fait un point au classement, donc après le match nul de Lens et le match nul ce soir entre Marseille et Monaco, Lens deuxième du championnat, 45 points, le PSG à 47 et jouera contre Reims demain soir à 20h45. Marseille troisième, 43 points, Monaco quatrième, 38 points, Rennes cinquième, 37 points. Est-ce que ce match nul, Kevin et Elio, là, dans les dernières minutes, les 10 dernières minutes, vous avez senti que dans les têtes, on s'est dit que c'était un match trop important pour découvrir un peu trop, aller chercher un peu mieux que le
point de match. Pas que nous, hein. Même l'entraîneur de Marseille, hein, il a dit à ses joueurs, les gars, arrêtez de vous découvrir, c'est bon, maintenant on arrête de prendre des risques. Bah écoute, ça a été comme ça tout le long du match, et Marseille en fin de compte, honnêtement, il y a un joueur dont on parle pas beaucoup aujourd'hui, et je pense que Marseille lui doit quand même pas mal, c'est Blanco. Parce qu'en première mi-temps, les Monégasques ont l'occasion, suite, bah, justement, à ce, je dirais, déséquilibre marseillais du milieu de terrain, et ben s'est exposé à des contres, et Blanco, alors il y a eu les arrêts de Blanco, il y a eu aussi la maladresse de Ben Yedder qui en loupe deux, des tirs non cadrés, si à la mi-temps il y a 3-0, il y a rien à dire. Ouais. Et donc Marseille se découvre beaucoup quand même. Donc faut faire attention, ils jouent avec le feu. Mais bon, c'est le football, c'est ce qu'ils veulent, c'est comme ça. Mais en fin de temps, il était temps, quoi.
Et au final, c'est un match nul logique quand on regarde, Kevin. Les deux équipes ont eu leur période, période chacune, quoi.
C'est un match nul complètement logique dans le sens où l'Olympique de Marseille, c'est une équipe. Alors quand est arrivé Igor Tudor, certains nous ont dit que c'était un entraîneur qui allait jouer très vite en transition avec beaucoup d'intensité, que ça allait aller très très vite vers l'avant. Mais finalement, non. Marseille, c'est une équipe qui sait jouer en transition, mais qui sait aussi, notamment à domicile, avoir beaucoup le ballon, et c'est ce qu'ils ont fait dans la première demi-heure de jeu. Malheureusement pour eux, ou heureusement pour le spectacle, ils se sont très très bien fait contrer par cette équipe monégasque qui les attendait, qui a énormément de justesse technique pour ressortir les ballons, et c'est là que l'Olympique de Marseille a été en difficulté. Et par contre, ça s'est inversé en deuxième mi-temps, l'Olympique de Marseille a très très vite égalisé, et ensuite c'est Monaco qui a pris un peu la marée avant de ressortir la tête de l'eau en fin de match.
Et les gars, on a beaucoup d'appels au 32-16, et j'accueille Ryan ce soir dans l'after. Salut Ryan.
Bonsoir.
Tu sors d'où, Ryan?
Bah, salut, Ryan. Devant le stade, là.
Bah, je croyais que c'était Ryan Cherki.
On est encore, à Zif, là. Ouais. J'ai permis d'appeler, non, par rapport au match. Je sais pas.
Tu t'es régalé peu, voilà.
Ouais. Je disais, j'entendais un petit peu les commentaires, c'est ça qui est ressorti, hein. Alors, un premier temps presque catastrophique, hein, si c'est pas pour dire absente. Franchement, j'étais très déçu au début. Deuxième mi-temps, franchement, on a vu un nouvel OM avec un Alexis Sanchez qui a été flamboyant. Lui, c'est vraiment
extraordinaire.
Mais moi, franchement, il a fait des retours, des récupérations de balles. J'étais avec mes collègues, j'étais là, mais je sais pas ce qu'il a pris à la mi-temps, mais c'était incroyable ce qu'il a fait à 34 ans faire ça. C'est un exemple. Ouais. Et après, dans la norme, franchement, moi, comme je disais, à la 75e, je voyais mes collègues, je disais 1-1, vous prenez. Eux, pas trop. Moi, franchement, 1-1, je prends. Quand tu es dans la dynamique comme ça, perdre, ça aurait fait très mal. Derrière 8 victoires d'affilée, ça aurait fait très mal. Sachant que tu prends Paris derrière, ça aurait enchaîné des défaites. Tu prends un nul. Bon, voilà, on le prend difficilement, mais on le prend, quoi.
Ouais. Dans le stade, comment le Vélodrome a vécu dans le dernier quart d'heure le corner là, tu sais, sur la barre transversale, il y a Kolasinac, de Balerdi, et derrière il y a Kolasinac qui prend une semelle d'un défenseur monégasque.
C'est limite, hein. C'est limite, franchement.
Alors, limite, non mais Lio, pour le coup, c'est pas limite. C'est aujourd'hui, moi c'est pas mon football, c'est pas le football que j'aime d'arbitrer des actions 3 4 5 10 secondes après. Mais tu regardes sur le direct, personne ne le voit. Mais tu regardes le ralenti. Ryan Maripane ne maîtrise pas du tout son intervention, rate le ballon. Certes, le ballon est au-dessus, mais dans son geste, il finit ses crampons sur le haut de la cheville. Mais si c'est pas un carton rouge et un pénalty, qu'est-ce que c'est?
Et d'ailleurs, les gars, je précise qu'on vient de voir voir, le diffuseur vient de montrer une image dans les travées du vélodrome d'un Pablo Longoria, très en colère, là, le président de l'OM.
Je pense que c'est pour ça.
Hein. Ouais, je pense aussi que c'est pour ça. Il a l'air de je sais pas, d'attendre l'arbitre, peut-être. Il est devant une porte, là, en train de secouer ses mains, là, à l'italienne, un peu, là. On le voit dire, mamma mia. Il a pas l'air content. Ouais, Ryan, dans le vélodrome, tu l'as vécu comment, toi, ce moment?
Ben, moi, honnêtement, comme mon collègue me disait, on pensait qu'il avait tiré avant, en fait. On pensait qu'il avait tiré avant qu'on l'a
mais ça, peu importe, après, Ryan. Ryan, hein, tu sais, le ballon, il est sorti, il est dans la tribune. Il y a un défenseur qui met un coup de coude à un Marseillais dans la surface. Je fais un truc fiction. C'est pénalty, carton rouge, en fait. On s'en fout que le ballon soit dans la tribune.
Totalement. Mais nous, honnêtement, il n'y a pas eu de scandale du virage, du stade. Mmh. Personne, on l'a pas vu, en fait, dans notre angle,
En tout cas,
ça reste un fait de jeu, hein.
Oui. Mais... Et ça confirme que, aussi, que l'arbitre a pu ne pas le voir. Mais effectivement, quand t'as la vidéo, il peut être derrière. Pas,
quand tu regardes quand même la physionomie, Ryan le disait fort justement, la physionomie du match à la mi-temps, si l'OM repart à la mi-temps avec 3-0 il n'y a rien à dire, donc oui, là non, le 1 partout à la limite, bon.
Tiens les gars, voilà. Ryan, bouge pas, je te reprends dans un instant, mais c'est terminé au rugby. Quel match entre le Racing et La Rochelle, Valentin Jamin?
Et ça s'est joué sur une toute dernière pénalité transformée par Finn Russell. Victoire finale 39-36 du Racing face à La Rochelle. La Rochelle, première défaite sur cette année civile 2023, et le résultat, c'est qu'avec ce point de bonus défensif de La Rochelle, et bien le Racing revient à hauteur de son adversaire du jour au classement. 42 points pour les deux équipes. Victoire du Racing, 39-36.
C'est régalé celui-là, Paris, la défense Arena. Bonne soirée, Valentin. À très vite. Bye. Retour au foot, et donc ce match nul entre Marseille et Monaco. Je voudrais remercier Ryan. Ouais, Lio, vas-y.
Si, il est parti, Ryan.
Non, il est là, normalement.
Ouais, non, parce que Ryan a parlé d'un mec, et moi je le trouve essentiel, et notamment pour le début de deuxième mi-temps, c'est Alexis Sanchez. Il a été extraordinaire. C'est lui, quand t'as, moi qui étais gardien de but, j'ai eu la chance d'avoir des attaquants comme ça, qui étaient les premiers défenseurs, qui te mettaient le rythme, mais c'est hallucinant. Et quand t'es milieu de terrain, que t'as des, le mec, il a boosté tout le monde derrière lui, il a ramené tout le monde, il a fait le travail, en plus, il est décisif, c'est magnifique.
Non, mais avoir un joueur comme ça à l'OM, c'est fou.
C'est exactement le joueur pour l'OM, ce qu'il faut avoir comme état d'esprit. De mon côté.
On va pas se le cacher, Lionel. Et moi, j'avais échangé avec des gens très haut placés en Italie qui m'avaient dit que pour eux, physiquement, ça allait être compliqué. Alors, je vais pas dire qu'il était cramé, mais presque. Nous, on l'avait moins vu jouer, moins vu enchaîner les matchs sur les derniers mois avant qu'il signe à l'OM. Mais franchement, bravo encore une fois à Longoria et aux dirigeants et à Alex Sanchez d'avoir relevé ce challenge, parce que quoi qu'il arrive, c'est une réussite. C'est complètement dingue d'arriver à son âge. On savait que c'était un joueur énergique, etc., mais qu'il arrive comme ça à enchaîner les matchs. Il faut dire qu'il est aussi bien géré par Tudor, qui arrive et qui a le cran et le caractère de le sortir quand il faut. Ouais. Mais franchement, ce qu'il fait, c'est super.
On va juste remercier Ryan pour conclure. Alexis Sanchez, vu du stade, c'est comment, Ryan?
Ah non, mais voilà, c'est ce que je vous disais, Alexis Sanchez, impressionnant. En fait, c'est deuxième mi-temps, parce que première mi-temps, on l'a pas trop vu. Deuxième mi-temps, il est flamboyant. Mais voilà, moi, le petit coup de fusil un peu que j'aimerais tirer, c'est sur Tudor, parce qu'honnêtement, faire commencer les changements à la 85e, quand tu vois que le match, tu peux faire le basculer, tu as un Payet qui n'attend que ça, parce que nous, on l'a scandé, hein, quand Payet est rentré, c'était vraiment l'ébullition.
Bah, il a changé à la mi-temps quand même, hein. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu basculer le match quand il fait.
Il a changé à la mi-temps, ouais, mais sortir Guendouzi, je suis d'accord sur lui, parce qu'il était médiocre aujourd'hui, je sais pas s'il a la tête à Aston Villa ou pas, lui. Bon, on en parlera plus tard.
Ouais, il change Nuno Tavares aussi de l'autre côté, c'est lui qui fait le centre, c'est lui qui, ça vient
pas,
du côté droit.
Sur le sujet, mais voilà.
Non, mais Ryan, je pense que.
Payet doit rentrer plus tôt.
Ryan, je pense que on aime tous Dimitri Payet, c'est un talent exceptionnel pour le foot, mais il faut malheureusement se rendre à l'évidence que je pense que son entraîneur le respecte et respecte sa carrière et son talent, mais il ne passe pas dans le système de Tudor selon son entraîneur.
Je pense que
nous on voit Payet avec le ballon, mais Igor Tudor, il voit sûrement Payet sans le ballon, et il se dit que face à l'AS Monaco, qui peut en planter un dans les 5-10 dernières minutes aussi, et ça aurait pu être le cas ce soir, il veut un joueur, il veut 11 joueurs qui sont capables de faire les efforts, et on sait très bien que Dimitri Payet n'en est pas capable, même si moi aussi j'aurais aimé le voir un peu plus longtemps.
Ryan, merci beaucoup de nous avoir appelé ce soir en sortie de
salut stade. Ryan,
tu reviens quand tu veux dans
l'after. Bonne soirée,
Ryan.
Merci à vous.
Tu rentres où là? Tu rentres à Marseille?
Là je rentre, moi je suis de Nîmes, moi, donc on va faire la route, hein.
D'accord.
Bon, allez, faites partout, attention.
Ouais. Prudence, on met RMC dans la voiture.
On mange un petit bout et on y va.
Allez, ça marche.
Bonne soirée à vous aussi.
Bon appétit,
merci.
Ryan. À bientôt.
Merci.
Bye bye. 23h10, c'est l'after avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier sur RMC. Vous commentez l'émission, vous le savez, sur le Direct Studio, sur les applis RMC, RMC Sport. Dylan écrit bonsoir toute l'équipe. Il faut souligner le travail d'Igor Tudor, car moi, pendant la pré-saison, je me disais, ça va être une cata. Et je crois que les Marseillais étaient nombreux. Vous réagissez également au 32-16. Marco, supporter de l'OM, à nouveau est là. Salut Marco.
Salut les gars, bonsoir.
Bienvenue dans l'After Marco.
Ouais, nah, juste pour dire, bah, je suis amoureux. Hein. Ah. Je suis amoureux d'Alexis Sanchez, là, les gars. Franchement, c'est tellement kiffant de voir un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de joueur d'un si haut niveau. Le type, il est irréprochable en fait. Même si sur la première mi-temps, on a pris des vagues, on a concédé des occasions. Et comme vous l'avez dit, hein, si à la mi-temps il y a 3-0 pour Monaco, il y a rien à dire. Mais franchement, en deuxième mi-temps, il a été détonateur. Il a récupéré des ballons, il a harangué les foules, il a ramené toute l'équipe derrière lui. C'est vraiment exceptionnel d'avoir un joueur comme ça. Et Tudor le gère super bien, je trouve, et il apporte vraiment un plus dans cette équipe. Un match comme énorme. Ça, t'as pas Alexis Sanchez sur le terrain, je suis même pas sûr que tu reviennes au score.
Mais le problème en plus, les gars, c'est que heureusement qu'il est là, parce que s'il est pas là, bah, t'as plus personne derrière. Va falloir vite combler ça quand même à Marseille, parce que
après attention, il y a des joueurs qui sont plus collectifs. Lui, c'est vraiment l'individualité, mais c'est le seul qui a une telle carrière dans cet effectif.
Non, mais je veux dire à ce poste là en numéro 9 à Marseille, il y a plus personne. Dieng est parti.
Je pense que maintenant que Dieng est parti, on peut quand même faire confiance à Pablo Longoria pour recruter au moins un attaquant. T'as Unai qui n'est pas du tout un attaquant, mais qui est un gars capable quand même de se projeter aussi, de faire ce lien et ce joueur un peu box-to-box, capable de défendre et aussi de se projeter. Bon, t'as Malinovski qui est pas encore au top de sa forme, même si voilà.
Ah, c'est pas mal.
C'est pas mal. Je suis d'accord.
Trucs,
hein. Et puis les gars, il va peut-être falloir parler de l'énigme du soir, c'est-à-dire mon ami Nuno Tavares, parce que Nuno Tavares, je sais pas ce qu'en pense notre auditeur, mais
moi je pense clairement qu'il est droitier. Hein. Je pense qu'il est droitier et comme je pense depuis le début depuis un bon moment, je pense que c'est un gaucher forcé. Je pense qu'on l'a forcé à jouer du pied gauche, mais toutes les attitudes que tu vois à un moment donné en deuxième mi-temps, il a une reprise de volée. Il va pas sur son pied gauche, il se met tout de suite en position de pied droit.
Ce qui est fou avec Tavares, c'est que il avait fait son premier match avec Benfica. Il joue arrière droit, il marque du gauche. Son premier match avec l'équipe première de Benfica, c'était sur RMC Sport. Il rentre sur son pied gauche, il marque du gauche. Avec l'OM, depuis le début de saison, il joue à gauche, il n'a de cesse de tirer du droit. Et ce soir, il joue à droite, il retire du gauche. C'est quand même un joueur qui est très très difficile à analyser, très difficile à lire. C'est pareil pour les adversaires. Après, voilà, c'est une. Moi honnêtement, je peux comprendre. Hein. J'ai lu un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux que certains supporters marseillais sont un peu agacés. Mais honnêtement, c'est un joueur qui est généreux. C'est un joueur qui certes a les défauts de ses qualités, mais pour l'OM ça reste quand même dans l'ensemble, je trouve, une certaine plus-value.
C'est positif quand même depuis le début de la saison. Il a marqué des buts, il récupère
aujourd'hui ses ballons. C'est lui qui a l'initiative de l'égalisation, hein.
Oui, tout à fait.
Le centre, c'est lui.
Mais par contre, en première mi-temps, à lui tout seul, il avait perdu 10 ballons, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop.
C'est énorme pour un piston, parce que tu sais que quand les pistons ils perdent le ballon, en général, il y a des boulevards derrière eux. Et
exactement. Et voilà,
après, en première mi-temps, il y a beaucoup de joueurs qui de l'OM qui ont perdu beaucoup de ballons.
Hein. Ah oui, 10 ballons, c'était de loin
c'était pas le seul. Ouais.
Au final, c'est 13 ballons perdus. Je crois qu'il frappe 8 fois aujourd'hui.
Deuxième mi-temps, il a frappé à un moment donné. Je croyais qu'il faisait un spécifique.
Huit
frappes au but.
Tiens, Marco, comment t'analyses le coaching de Tudor, toi? Parce que nous, sur le direct, il nous a semblé plutôt judicieux, notamment celui de la mi-temps, où il fait entrer Balerdi, il change totalement l'animation, justement en changeant de côté Tavares, en faisant monter Under. Mais l'auditeur Ryan, qui était juste avant toi, lui, il voulait mettre un coup de fusil à l'expression, bien sûr, à Tudor. Toi, comment tu analyses le coaching ce soir du coach de l'OM?
Moi, ce soir, le coaching, il est bon. Il fait le changement dans les 10 dernières minutes parce que je pense que, comme vous, je sais pas si c'est Kevin ou si c'est Lionel qui l'a dit juste avant, Mais je pense qu'il sait qu'avec un Dimitri Payet, tu as un déséquilibre sur le travail défensif si tu le fais rentrer. Et d'ailleurs, à la fin, on a vécu un peu la même fin de match qu'on a vécu contre Rennes le week-end dernier, où on a subi, on a tenu, et un Dimitri Payet pendant 10 minutes, on va dire que ça va, ça passe. Mais si tu le mets un peu plus tôt, ça peut être compliqué au niveau de la perte de balle.
C'est clair, hein, c'est clair. Après, moi, je trouve quand même que sa réaction, l'équipe de départ de l'OM, je la trouve normale, c'est logique, c'est l'équipe type depuis l'absence notamment de Jonathan Klaus, et l'arrivée de Malinovski. Après, faire ce changement tactique à la mi-temps, sortir Guendouzi, qui n'était pas non plus catastrophique, il n'était pas bon, mais pas beaucoup, beaucoup moins bon que les autres. Et derrière, réorganiser.
Je le trouvais trop excentré, moi, personnellement.
Ouais, mais il a quand même réorganisé toute la défense en changeant trois joueurs de poste.
C'est pour ça qu'il est sorti.
Oui, mais je veux dire, le coach change trois joueurs de poste et tout de suite, t'as une amélioration. Donc, ça crée cet électrochoc. On sait que le plus dur pour un coach, c'est d'être impactant sur le jeu et sur le scénario d'un match. Et force est de constater une nouvelle fois qu'Igor Tudor a réussi à le faire. Et derrière, moi, je suis complètement d'accord. En fin de match, il fallait fermer parce que Monaco pouvait largement t'en planter un aussi.
Après, c'est difficile, hein, parce que c'est vrai que les supporters, ils veulent tout le temps à faire des changements, il reste plus que 20 minutes, on fait des changements, ça ce que c'est. Mais là, dans le rythme, tout ça, c'est vachement compliqué parce que t'as peur, à 20 minutes de la fin, l'OM est encore capable, ils sont dans une bonne dynamique et tout. Si tu fais le changement, est-ce que quand t'es entraîneur, tu te dis est-ce que je vais pas casser ce rythme? Est-ce que t'es tout le temps en train de poser des questions? C'est pas que le mec il veut pas faire les changements, c'est que il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Et que c'est pas toujours facile. Et là, au moment où il fait le changement, c'est parce que l'OM commençait à piquer du nez physiquement. Tiens, c'est tout.
Les gars, je vous parlais de la colère de Longoria après le penalty non sifflé sur Kolasinac. Là, après le coup de sifflet final dans les couloirs du Vélodrome, il a dit "Mamma mia, à quoi sert le VAR ?" Voilà ce qu'ont capté les micros du diffuseur dans les couloirs. Je remercie Marco de nous avoir appelé ce soir. Merci Marco.
Est-ce que je peux faire une petite dédicace?
Et bien sûr, en mode libre antenne, on aime ça, vas-y Marco.
Ouais, c'est juste une dédicace à Nico, un pote qui bosse avec moi et qui est supporter de Monaco. Nico, si tu veux, je te donne une bonne. Si je peux lui laisser un message, c'est juste lui dire si tu veux, on n'échange pas nos gardiens, mais mon gardien numéro 2, il est meilleur que ton numéro 1.
C'est avec Nubel, ce soir.
J'ai du mal avec Nubel.
Merci Marco, le message est passé.
Salut Marco. Merci les gars, bonne soirée.
Merci toi aussi, tu reviens quand tu veux dans l'after 32-16, hein, si vous voulez faire comme Marco, même supporter monégasque, n'hésitez pas, 32-16, tu nous appelles, tu passes à l'antenne tout de suite. Pas encore, si bah tiens, on a un quoi. Ouais, il y a Mathieu qui nous a appelé, qu'on va prendre dans quelques minutes. Je précise que dans une dizaine de minutes, on reviendra également sur le match nul de Lens à 3, donc Troyens, Lensois, le 32-16 est également ouvert pour vous. On va prendre un dernier supporter de l'OM ce soir, qui était au stade également, c'est Jonathan. Salut Jonathan.
Oui, bonsoir les gars.
Ça va Jonathan? T'es où là?
Salut Jonathan.
Salut Nico, salut Kevin, salut Lionel.
Salut Jonathan.
Bon, salut Nico, Lionel, respect pour ta carrière Lionel.
merci.
Jonathan, t'es où là? J'ai l'impression que t'es en voiture déjà.
Ouais, je suis en voiture, vous m'entendez bien les gars ou pas?
On t'entend bien, t'es où là exactement?
Là, je sors du stade là.
Bon, on a mis le kit main libre?
Ouais, tu veux que je passe en normal?
Non, c'est très bien, mais c'est juste pour être prudent, tu vois.
Oui, t'inquiète pas, c'est mon collègue qui conduit.
Ah, parfait. T'as passé une bonne soirée au Vélodrome?
Ouais, c'est quand même assez agréable vu du stade. Bon, première mi-temps très très difficile. Et à la fin, comme on dit souvent, quand tu peux pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Donc, je pense qu'on méritait quand même de gagner sur la physionomie du match, mais bon. Première mi-temps vraiment catastrophique.
Ah ouais.
Et comme disait Lionel, s'il y a 3-0 à la mi-temps, bon ben le match il est plié quoi. Je veux dire, j'ai vraiment pas compris comment en première mi-temps c'était pas 1-2, mais c'est 7-8 joueurs qui sont catastrophiques à la ramasse dans tous les duels, pas d'impact physiquement. Mais... Ouais. Emprunté, j'ai pas compris.
Mais tu sais, Jonathan, il y a une chose qui est simple hein, dans le football, c'est l'adversité en fait. Et l'OM, c'est une très très bonne équipe, on le dit, on le répète. Mais l'AS Monaco de ce soir, en tout cas, quand tu dis que l'OM mérite de gagner, je pense pas, parce qu'un match c'est 90 minutes et sur les 45 premières minutes, l'AS Monaco a été bien bien meilleur. Et j'ai pas vu une équipe meilleure que l'AS Monaco au Vélodrome. Peut-être sur certaines périodes, c'était Tottenham quoi. Mais à part ça, voilà, aujourd'hui l'AS Monaco a fait un match niveau Ligue des Champions quoi, niveau oui, phase de groupe Ligue des Champions. Donc à partir de là, bah tu vois aussi les limites de l'effectif de l'OM face à une grosse équipe sur 45 minutes en tout cas. Et bah, ils ont été battus à la mi-temps, en tout cas face à meilleur.
Vas-y Jonathan.
Ce point noir, c'est comment tu peux être le 28 janvier et n'avoir que Alexis Sanchez être l'Olympique de Marseille et n'avoir qu'Alexis Sanchez et encore j'allais dire attaquant, ce n'est pas un attaquant. C'est quand même, moi je trouve ça dramatique quand même.
Ouais, mais Jonathan, on est loin, Jonathan, c'est là où
on devrait avoir un œuf.
Il faut regarder les finances, Jonathan.
La profondeur. C'est quand même dommage de travailler comme ça. J'aime beaucoup Longoria ce qu'il fait, mais ça, quand même, quand t'es l'OM, tu devrais avoir ton œuf déjà. Début de mercato, tu devrais anticiper. Tu sais que Sanchez, c'est pas un œuf. Tout le monde le sait.
Jonathan, excuse-moi de te couper, mais Terem Moffi, c'est un numéro 9, on parle de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour Terem Moffi. Donc imagine-toi. Jonathan, imagine-toi le prix des vrais numéros 9 niveau Ligue des Champions où veut aller l'Olympique de Marseille. Il y a un moment, il y a une réalité qui s'appelle la finance. Quoi.
Comment? À moins de 30 millions d'euros, tu en trouves.
Hein. Honnêtement, c'est très compliqué.
Tu peux en faire des bons coups.
C'est difficile.
Mais après, bon, il reste 3 jours, hein, on est le 28, alors on parle, il est 23h.
Attends-toi une arrivée quand même.
C'est dommage que, tu vois, ce soir, si t'as un 9 sur le banc, eh ben, c'est pas la même. Alexis, il peut reculer d'un cran. Et on peut finir le match avec un vrai neuf.
Moi, je suis d'accord avec toi, Jonathan Chou. C'est un peu flippant, l'effectif de l'OM. Et voilà, Sanchez est là, il est excellent.
Alors, attends,
heureusement.
Une dernière chose, après, je vous laisse, les amis. Qu'est-ce qu'il nous a montré ce soir, Tudor, jusqu'à la 85e minute, qu'il n'a pas confiance à son banc de touche? Et ça me dérange.
Il n'y avait pas de banc aujourd'hui, Jonathan.
Gay, Caboret, Payet, ça veut dire que des matchs de haut niveau, que ce soit contre Paris, Lyon ou quoi, s'il y a un 0 ou un partout, ça veut dire qu'il n'aura pas confiance en eux, puisque normalement, ils doivent rentrer. Kevin, tu as vu le match. Tu as vu que Malinovski, il était cuit. Mmh. Tu as vu que Tavares, sur le côté droit, il doit sortir à la 75e. Jonathan, sur le
banc, tu les as cités. Dimitri Payet, on l'a tous adoré, mais il a 35 ans. Il y a un moment, pour le très haut niveau, le banc de l'OM n'a pas le niveau.
Jonathan, merci.
Jonathan. Un quart d'heure, Kevin, quand même.
Mais même sur un quart d'heure, Jonathan, les erreurs, les efforts.
Moi, j'aime le travail de Longoria, mais être le 28 janvier et pas avoir un banc de touche quand t'as Klaus blessé, Harit blessé et Lopez blessé, c'est pas normal.
On fera un point le 1er février, Jonathan. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé.
Merci, bon
retour
à toi.
Tu reviens quand tu veux dans l'after.
Merci.
Salut Jonathan.
Bye
bye, merci. Salut, toi ciao. Aussi et à très vite. 23h23, vos commentaires sur le direct studio. On va parler de Monaco. Mathieu est là, supporter de l'ASM. Ouais. Salut Monaco.
Salut les gars.
Salut Mathieu, je t'ai appelé Monaco Mathieu. Directement. Quoi.
Salut Mathieu.
Ça va Mathieu?
Ça va et vous?
Bah ça va super. Alors toi aussi t'étais au Vélodrome. En fait, tous les gars, ils nous appellent tous du Vélodrome.
Magnifique.
T'étais là-bas, Mathieu?
Ouais, super soirée.
T'étais où toi dans le stade, dans le chez les?
Bah juste devant le banc des Monégasques.
Ah d'accord.
Okay. Et quel est ton sentiment, Mathieu, ce soir? T'es heureux du match nul ou tu te dis t'as un petit goût amer quand tu vois la première mi-temps?
En gros première mi-temps des Monégasques. Franchement, très altruiste. On les bouffe, on les mange, ils ont un peu plus le ballon que nous, je trouve, mais vu du stade. Mais on est plus dangereux, il n'y a pas photo. Et après, deuxième mi-temps, là, je m'avoue vaincu. Les Marseillais, vraiment meilleurs que nous, il n'y a pas photo. Tête de champion.
Ah, carrément.
Ouais, Marseille joue le titre. Pour moi, Marseille joue le titre, les gars.
Ouais, bah après ils sont là ce soir à 4 points du PSG qui joue demain contre Reims.
Paris
va battre Reims demain.
Est-ce que tu penses que le banc est assez important pour l'OM pour jouer le titre justement?
C'est ce qu'on vient de dire avec Jonathan, ça va être compliqué quand même avec le banc de l'OM.
Ce soir le banc était.
Parce que là tu vas jouer tous les 3 jours
pour les Marseillais. Tudor a fait des remplacements trop tard, mais l'OM est là. L'OM est là. Et l'OM est là. En tant que Monégas, ça me fait mal au cœur. Ouais. Mais
toi, ce soir, tu es à 5 points de l'OM et donc il y a 5 points de la 3ème place du podium. Inaccessible ce podium.
Il n'y a pas photo.
Donc pas de podium pour Monaco cette année, Mathieu.
4ème. Il faut que Lens s'écroule. Et Lens est quand même, malgré le match nul de Lens à 3, ils sont quand même sur une bonne dynamique. Lens, ça joue bien, faut dire ce qui est. Et je les vois pas s'écrouler.
Je peux quand même te dire un mot très positif sur l'AS Monaco parce que j'en ai envie, parce que honnêtement, vous le savez, je suis pas du genre à m'enflammer pour des jeunes joueurs, surtout quand ils n'ont pas encore 18 ans. Mais ce que j'ai vu de Ben Seguir ce soir, j'en parlais avec Thibaut pendant le match, mais on a beaucoup parlé de certaines pépites, hein, notamment de Ryan Cherki sur ces derniers jours particulièrement, mais en 4 matchs de Ligue 1, ce que j'ai vu de Ben Seguir, j'ai vu beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de volume, de technique, d'efficacité pour son équipe,
de
jeu
physique.
Collectif, d'impact même physique, comme physique. Tu dis, par rapport à Ryan Cherki que je vois depuis 3 ans en Ligue 1. Mais bon, après, voilà.
Le dernier 17 ans qui est parti de Monaco.
Mais c'est ce que j'allais dire. Mathieu, toi qui as vu passer.
Il s'appelle Mbappé. Hein.
Quelques pépites et une en particulier
faut voir
à Monaco.
Ça
me donnait,
mais c'est quelque chose.
Qu'est-ce que tu l'as vu de près, là, encore ce soir, Ben Seguir? Qu'est-ce que t'en penses de lui?
Et Kevin.
Je t'écoute.
Ouais. En vrai, je suis pour l'OM.
Allez l'OM.
Ah d'accord, ok.
Je suis d'accord avec toi. Quand Ben Seguir et Ben Yedder ils étaient titulaires, j'étais pas bien.
Mathieu.
Et Ben Seguir, il a fait un vrai match. Il a fait un gros match.
C'était très très marrant, mon gars. Mathieu, en tout cas, je me disais aussi, on a le seul supporter de Monaco qui appelle, qui parle de toutes les équipes sans de Monaco. Écoute. Bon, bah passe une bonne soirée, Mathieu. Amuse-toi bien avec tes potes.
Mais quand même, t'as un Marseillais qui reconnaît que Ben Seguir est exceptionnel.
Heureusement.
On est un peu en retard, mais je voudrais prendre Alexandre. Je suis désolé, Max en régie qui a m'engueulé. Mais Alexandre, a priori, est un vrai supporter monégasque. Salut Alexandre.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend?
Ouais, on t'entend bien. Est-ce que t'es un vrai supporter?
Je suis un vrai supporter et j'ai envie de remettre un peu en question le recrutement de Mitchell. Quand on voit que on se fait prêter un gardien, un Nubel, qui est juste, peut-être, on va dire au maximum un gardien amateur, hein. C'est incroyable. Je pense, moi, ça fait très longtemps que je suis supporter de Monaco. C'est vraiment le plus mauvais gardien que j'ai vu. Et
Alexandre, et
je suis vraiment dégoûté parce qu'on a cette première mi-temps où clairement on manque de réalisme. Sinon le match il est plié. On est au retour de la deuxième mi-temps. Il fait cette bourde comme on en a l'habitude. Le problème c'est qu'on passe pas tout le temps, on va dire dans les grands matchs, le samedi soir ou le dimanche soir. Mais il en est à sa 7e ou 8e bourde. Je veux dire, à un moment, c'est pas possible.
Le Bayern, alors en plus, Alexandre,
je suis d'accord.
Mais je l'ai défendu. Parfois, il était indéfendable, donc j'ai pas pu le défendre. Un coup, il était super bon. Un coup, il est pas bon. Un coup, là, ce soir, il te fait perdre 2 points. Franchement, il te fait perdre 2 points.
Disons que tu prends
un point à la place de la place des trois, parce que après qu'est-ce qu'il a eu comme arrêt à faire,
plus que 2 points, passer un match
sur l'ensemble du championnat et tout ça, après c'est différent, mais je pense que le problème de, mais je suis entièrement d'accord avec toi, pour moi il n'a pas la valeur d'un haut de championnat. Tous les gardiens peuvent faire des bourdes, tous les gardiens, mais aujourd'hui, par exemple, il aurait fait sa bourde là et Monaco aurait gagné 2-1. Bon, ça porte pas préjudice. Et les très bons gardiens font des bourdes aussi, mais par contre, tu perds jamais les points quand ils font les bourdes. Et quand il faut les gagner, ils sont là pour te les faire gagner. Et Nubel, il est incapable de faire ça. Je l'ai pas vu, moi, jusqu'à maintenant. Moi, je te dis, tu mets, par exemple, un Sommer à la place de Nubel, Monaco est pas à la même place actuellement.
Mais c'est clair. Mais je veux dire, même quand il y a la barre, là, mais c'est un ballon.
Au deuxième poteau, c'est mal jugé au deuxième poteau aussi.
Ah ouais, il est là en touriste.
On ne peut pas aller chercher ce ballon-là. Sur le but, il se roule par terre, même pas en corpo, même pas la poste, contre les plombiers, il y a des gardiens comme ça. Et nous, on est une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions, et on a un gardien qui est ridicule, et qui est défendu par notre directeur sportif, qui recrute des joueurs à des millions qui sont mauvais. Les Jacobs, les Jean-Lucas, tout ça. Mais ces mecs-là, ils sont payés. Et ils sont payés très cher pour recruter à Monaco. Arrêtons. Arrêtons les bêtises.
Alexandre...
Arrêtons les bêtises et repartons sur du propre.
Le coup de gueule est passé.
Le propre, c'est le centre de formation. Mmh. Et le centre de formation, c'est là où il y a les meilleurs joueurs. Et ça fait des décennies que c'est comme ça. Donc arrêtons de recruter des nuls, hein, en étant poli, parce que je suis à la radio.
Après, ton équipe, elle n'était pas si mal que ça.
De millions. C'est incompréhensible.
Les gars, on doit s'arrêter. Il est 23h30. Alexandre, merci. Le coup de gueule est passé. Merci de nous avoir appelés ce soir. Tu reviens quand tu veux dans l'after.
Ah, et il est pas chez Alexandre.
Ah ouais, une bonne suite de saison. À très vite, Alexandre.
On verra le maillot de Nobel.
Ouais. Ouais, pas sûr. Allez, 23h30, l'after en direct jusqu'à minuit. Dans un instant, Lens au programme après le match nul contre Troyes. On vous attend au 32-16, amis Troyens, amis Lensois. Il y a des choses à changer, nous disait tout à l'heure Lionel, peut-être pour les Lensois contre les petits de ce championnat. Venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. Je vous donnerai les infos mercato du jour et puis on ira voir les drôles de dames aujourd'hui en Espagne et en Allemagne. Le Bayern ne gagne plus. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
23h35, merci d'être là en ce samedi soir. Nous sommes le 28 janvier, Kevin Diaz et Lionel Charbonnier sont là en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs. On a débriefé longuement ce Marseille-Monaco avec des supporters marseillais, avec des supporters monégasques, avec des supporters marseillais déguisés sous des supporters monégasques. Bon les gars, n'hésitez pas, si vous êtes supporters de votre club, appelez-nous 32-16, vous êtes Troyens, Lensois, c'est votre moment. C'était le match de l'après-midi. Je vous donnerai les infos mercato dans un instant, mais donc ce match nul entre Troyes et Lens, un partout. Le RC Lens qui reste deuxième à 2 points du Paris Saint-Germain, 2 points d'avance sur l'OM, finalement statu quo dans cette course pour le podium. Et on est avec Vincent qui nous a appelé au 32-16. Salut Vincent.
Salut, bonsoir à tout le monde.
Bienvenue dans l'After Vincent. Vincent.
Du coup, j'ai entendu tout à l'heure un petit peu savoir si le RC Lens devait changer quelques petites choses au niveau du système face aux petites équipes, c'est ça, je me trompe ou...
Oui, alors c'était un des points de Lionel.
Alors moi, je suis incapable de te dire, moi personnellement, s'il faut changer quelque chose par rapport au système, parce que si tu changes quelque chose dans le système, tu chamboules toute l'équipe, et donc tu peux ne pas avoir justement tous les enfin le même équilibre défensif et tout ça. Mais ma question, c'est que maintenant, Lens, le Racing Club de Lens, de par sa position, de par son jeu, de par tout le monde les connaît. Beaucoup d'équipes maintenant jouent dans des blocs bas et on sait très bien que, on le voit en plus là, que face à des blocs bas, il y a des difficultés.
Moi, je te dirais que ce qu'il faudrait peut-être, c'est un profil différent devant. Un mec un peu plus grand, un peu plus massif, tu vois, un peu comme Bouxard.
Pour récupérer tous les centres, parce que là, ils sont bien passés, je suis d'accord avec toi.
36 ou 37 centres.
44 centres.
Il est capable de foutre son pied. 44, tu vois. Alors on a un excellent attaquant, moi j'adore Openda, et à partir du moment où t'as un bloc bas qu'on a pu voir à 3 et ça va nous arriver avec d'autres équipes, c'est compliqué pour lui. Donc on a essayé avec le profil de Bouxa, sauf qu'il est arrivé blessé, il n'a pas réussi à enchaîner, et donc moi je pense qu'on devrait peut-être...
Openda ça va, je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi, je trouve que c'est très bien pour les contres, mais pour un jeu de possession, avoir un attaquant comme ça, maintenant que les Lensois sont tout le temps face à des blocs bas, enfin en tout cas ça va arriver très 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 souvent.
Et oui.
Avoir un mec devant pour pouvoir mettre sa tronche, je suis entièrement d'accord, et sans changer tout le système, parce que il suffit. Tu peux te dire aussi, tu peux avoir aussi la réflexion de te dire ça manque un peu de créativité dans les derniers mètres. Il faudrait peut-être un joueur de ballon qui crée quelque chose de neuf et tout ça. Oui, mais alors si t'as un mec comme ça, ça peut te créer un déséquilibre et là ça, tu réinventes carrément tout un bloc Lensois.
Tu vois, on a Claude Maurice qui était prêté par Nice, il a un talent monstre. On a le petit Costa qui a un talent monstre.
Et Vincent,
des joueurs qui peuvent faire la créativité, on en a.
Et Thomasson qui vient d'arriver, c'est lui qui marque aujourd'hui deux buts déjà en trois matchs.
C'est vraiment un profil différent devant, je pense, pour récupérer les centres, pour être un peu plus pesant sur les défenses qui sont très basses. Et je vous dis, on a essayé avec Bouxa, il s'est blessé, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on ne devrait pas investir sur un autre attaquant?
Ça va aller pour Lens, ils ont quand même un effectif cohérent par rapport à leur budget surtout, mais ce soir moi je trouve que en tout cas en fin d'après-midi vous en sortez bien. Ils s'en sortent bien, le Racing Club de Lens, parce que il y a deux occasions énormes de Ronny Lopez, mais comment il peut ne pas cadrer, c'est complètement fou.
Même toi tu l'aimais, Kevin.
Même moi, je l'aimais. Là, d'accord.
Bon, même s'il faut dire qu'il a tiré du droit. Donc là, je pense pas que je l'aurais mis, mais en l'occurrence. Bon,
après, il s'en sort bien. Je suis pas
du droit.
Je suis pas d'accord avec lui.
Ils ont le ballon, mais les autres, ils ont le ballon. Ils ont des occasions, mais les autres, ils ont des occasions énormes de mettre le deuxième et de sceller la victoire.
Face à un 3 qui a mis un but incroyable qui n'est pas sorti.
Ouais, mais le but, ça arrive. Le but dans le foot, demande au PSG.
C'est comme ça. Après, faut savoir se réinventer.
Le PSG, ils ont des mecs comme Mbappé aussi. Hein. Donc, c'est pas comparable.
Peu importe, on parle du bus.
Oui, non, mais c'est après, c'est les équipes. C'est
Mbappé,
comme ça.
Mbappé, c'est pas face à un bus qu'il est le meilleur.
Non, c'est vrai. Mais après, ils arrivent. Voilà, c'est le PSG. Je pense que c'est une équipe qui est encore.
Non, mais je veux juste dire que les équipes du haut de tableau, c'est ça. Marseille rencontre des bus, le PSG aussi. Et bah, Lens arrive à un niveau et a démontré autant de qualité que les équipes, elles préfèrent les attendre parce qu'elles savent sinon que c'est une équipe qui est en transition et encore plus.
Mais ouais, mais je trouve que c'est un peu dur quand tu dis Lens s'en sort bien.
Lens s'en sort bien avec le point du nul aujourd'hui, je te le dis.
Bah, tu sais, si t'as le 2-0 à la mi-temps, c'est là, sur les. Ouais, pas à la mi-temps, deuxième mi-temps, parce qu'il y a Ronnie Lopez, il a vraiment, mais il est tout seul devant le but. Tu te souviens de ça?
À la fin, c'est à la 80e.
Deuxième mi-temps, c'est avant l'égalisation.
Ouais.
Ah oui, je suis d'accord.
Après, bien sûr que dans le jeu, Lens a dominé, Lens a eu le ballon.
En même temps, ouais.
Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'être Lensois.
Ça, c'est normal.
Je regarde les matchs avec passion. Aujourd'hui, je ressens une petite frustration. Voilà, parce que c'est vrai qu'on aurait pu perdre le match. On a un nul, donc on va se contenter de ce nul. On est content. En plus, derrière, Marseille et Monaco, ils font le nul. C'est ce qu'on voulait aussi, hein. Parce que comme ça, on reste quand même au niveau point.
Entendons-nous, Vincent, quand je dis que vous en sortez bien, je ne parle pas des nombres d'occasions, de la domination, etc.
J'ai compris.
Parle de la physionomie du match qui fait que dominez, vous n'arrivez pas à égaliser. Et eux ont deux occasions énormes de faire le but du break.
Oui, non, c'est vrai.
Vincent, merci beaucoup de nous avoir appelés ce soir.
Merci à vous, les gars.
Je te souhaite un bon week-end et tu reviens quand tu veux.
Je peux passer juste une petite dédicace un petit peu à mon frère, à un autre pote, à Achour aussi, un Marseillais justement. Et voilà, mes frères Florent, Clément et à tout le monde. Et allez, Lens.
Trois frères dans la famille.
De quoi ?
Trois frères dans la famille.
On est trois en tout,
ouais. Ouais, c'est
trois
bien. Et alors, est-ce que vous êtes soudés comme les Pogba ?
Allez, on est mieux que les poupas.
Allez, passe une bonne soirée, Vincent. Tu reviens quand
bonne
tu
soirée,
veux.
Les gars.
Salut, bye bye.
Ciao, Vincent.
23h41. On sera avec les drôles de dames, avec Paulo Breitner et Fred Hermel dans quelques minutes. Là, le Bayern, notamment, ça gagne pas. Il y a le PSG qui arrive dans un peu plus de 15 jours. Il va nous expliquer tout ça. Vous commentez l'émission sur le Direct Studio. Bah, tiens, encore un Lensois, la Victorien, qui a écrit supporter Lensois. Depuis quelques matchs, nous avons beaucoup de mal contre les plus petites équipes qui jouent avec un bloc bas. Même si, quand on regarde le match de cet après-midi, 3 avec leur but sur leur première frappe du match. Bonne soirée l'équipe, merci Victorien. Bonne soirée à toi. Voilà le commentaire de Raj aussi. Merci beaucoup d'être là ce soir. Les infos mercato, les gars. Pas mal de choses encore aujourd'hui. Alors, ça c'est le feuilleton qui prendra fin un jour officiellement. C'est quasiment bouclé pour Skriniar au PSG cet été. C'est les fameux journalistes italiens, là. Vous les connaissez, ceux-là, Lio et Kevin, les Gianluca Di Marzio, j'ai pas l'autre, mais bref, qui annoncent que c'est fait pour cet été, que Skriniar va signer à Paris, même si Paris essaye encore, selon nos informations, de le faire venir d'ici au 31 janvier, voilà, pour l'avoir dès le mois de février. Malcolm au Paris Saint-Germain. Alors ça, c'est info du jour. Intérêt réciproque entre le PSG et l'ancien Bordelais qui est aujourd'hui au Zénith. Bon, on a beaucoup parlé de Cherki ces derniers jours. D'ailleurs, je précise que Paris ne lâche toujours pas la piste Cherki, mais celle qui s'est réchauffée aujourd'hui, c'est Malcolm. Lio, Kevin...
Moi, la piste Cherki, elle me plaît pas.
Ouais.
Personnellement, non, je ne vois pas, je comprends pas pourquoi Cherki,
parce que à Paris il y a pas assez de dribbleurs qui défendent pas beaucoup, je pense, et du coup
ils sont pas pourquoi un quatrième, pourquoi non, honnêtement, un attaquant
et Malcolm alors
bon, en arrière ils sont dessus, il faut
savoir que Malcolm alors après, on peut dire le standing du PSG, tout ça, etc. Mais avec le Zénith, il performe de très très belle façon hein, quand même, de très très belle manière depuis maintenant plusieurs mois, même plusieurs années. Donc ça reste un très bon joueur. On l'avait vu avec Bordeaux, alors un peu moins ensuite, mais depuis qu'il est au Zénith, franchement, il est excellent. C'est un gaucher qui joue à droite, qui peut amener de la percussion. Honnêtement, moi je trouve l'idée bien plus intéressante qu'un Ryan Cherki qui est encore très très loin du niveau du PSG.
Pour conclure sur le PSG,
Lyon. Après, ça dépend pourquoi tu le prends. Est-ce que tu prends pour une éventuelle plus-value? Est-ce que tu le prends pour dans deux ans? Est-ce que tu le prends pour tout de suite?
Ah non, bah, tu sais, Paris.
Tu prends pour tout de suite.
Kylian Navas semble désormais résolu à partir. Il est bien parti pour aller en Angleterre à Nottingham Forest. Voilà, il a refusé récemment une offre d'Al Nasser, le fameux club d'Al Nasser dont on ne fait que parler depuis deux mois, le club de Ronaldo.
Ils veulent acheter tout le monde.
Ouais, on dirait. Mais il est d'accord, Navas, pour rejoindre Nottingham Forest. Donc négociation en cours entre le Paris Saint-Germain et le club de Première Ligue. Bon, ce serait la fin de l'histoire avec Paris, Navas, Donnarumma, Lyon. Ce serait un peu la fin du débat, mais je sais pas ce que t'en penses. Ça aura quand même été un gâchis parce qu'il avait montré de très bonnes choses avec le PSG en Ligue des Champions, Navas. Hein.
Bien évidemment. Il est pas qu'avec le PSG en Ligue des Champions, même avec le Real. C'est un joueur de grande expérience, un gardien de grande expérience qui rassurait tout le monde. Après, il y a eu cette opportunité avec Donnarumma. Donc le PSG a fait Donnarumma. Opportunité financière, hein, parce que je pense que l'opportunité, je reste persuadé que l'opportunité sportive, pour moi, il y a meilleur que Donnarumma. Par contre, là, c'était une opportunité financière, donc ils l'ont fait. Quand je dis financière, il faut quand même payer le salaire. Hein, y a pas,
et la prime de signature.
Et puis la prime de... Oui, bien évidemment. Mais voilà, moi, pour Navas, pour moi, c'est un gros gâchis. C'est presque... Franchement, presque un manque de respect par rapport à tout ce qu'il a fait.
Et puis, donc toutes les infos sur rmcsport.fr. Voilà, on ne sait pas pour l'instant si Malcolm viendrait avec son petit frère ou pas.
Pour Navas, quand même, juste pour terminer, il était quand même assez souvent blessé. Il a terminé le Final Four, il était blessé aussi, il tirait plus les 6 mètres. Donc il y avait une nécessité de prendre quelqu'un d'autre. Et donc la nécessité, elle s'est faite par cette opportunité avec Donnarumma.
Dans un instant, Lyo, Kevin, les drôles de dames, alors que Kevin me montre une nouvelle réaction marseillaise là, ce soir. C'est tout d'or, hein, Kevin, là, en conférence de presse, qui trouve inacceptable qu'il n'y ait pas eu de pénalty. Pour le coup,
il m'a paraphrasé. Incroyable, normalement, c'est rouge.
Il m'a paraphrasé, mais ça va, toi, Kevin.
Il a pas entendu, mais on a pensé pareil.
Et puis j'ai Abrahim sur le hashtag RMC Live sur Twitter qui me dit Navas à Monaco, je le prends chaque jour. Effectivement, on vous comprend les monégasques. 23h46, l'after en direct jusqu'à minuit. Dans un instant, Paulo Breitner, Fred Hermel, le Barça, Dembélé et le Bayern au programme. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier, l'after en direct jusqu'à minuit. Merci d'être là à l'écoute, à la radio, d'être là en podcast, de nous appeler au 32-16, de commenter l'émission sur le direct studio. L'after est là et accueille ce soir deux de nos drôles de dames. Paulo Breitner est là et Fred Hermel également. Salut les gars.
Comme la semaine dernière, les plus bons.
Bonsoir tout le monde.
T'as dit quoi, Paulo? T'as dit quoi? J'ai l'impression que t'as mis
comme la semaine dernière, les plus beaux.
Ah, directement, d'accord. On met un petit taquet.
Les EHPAD.
Alors, il y en a un qui est lucide, mais je dirais pas lequel des deux. On va parler dans un instant, Fredo, de cette victoire du Barça et du Real qui joue demain et la blessure de Dembélé. Mais d'abord, Polo, qu'arrive-t-il au Bayern? Alors, il y a une crise.
Le mot a été prononcé, mais c'est, alors, on parle de crise de résultats. On parle pas spécialement de crise dans le jeu. Soyons très, très réalistes. 3 matchs depuis la reprise du championnat, 3 matchs nuls. Les autres équipes derrière ne dorment pas, donc se rapprochent. Le Bayern aujourd'hui n'a plus qu'un point d'avance sur l'Union de Berlin. Et surtout, si tu veux, je pense que ce mot de crise, il faut relativiser, parce que depuis le début de la saison, le Bayern, toute compétition confondue, il a perdu un match. Donc il faut aussi relativiser ce genre de oui. de commentaires. C'est une crise de résultats, c'est clair. Il y a des choses qui ne vont pas dans le jeu. C'est-à-dire qu'autant on peut être heureux de la prestation contre Leipzig vendredi dernier, le point pris là-bas, et on se dit ça va monter en puissance tranquillement. Le problème, c'est contre Cologne, c'est pas monté en puissance. Et contre Leipzig et contre le Francfort, qui a couru au passage 124 kilomètres, c'est énorme. Et ben le Bayern ne trouve pas de solution offensivement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on cherche des coupables, et ben on peut dire que le Néerlandais De Ligt, il est encore dans l'avion entre Turin et Munich. Quoi. C'est très clairement Upamecano, il doit faire le boulot tout seul. Évidemment, Colomouani, le Français, ben il est en super forme depuis le début de saison, donc il a réussi à égaliser. Mais si tu veux, moi, ce qui m'embête dans ce que je vois dans le Bayern, c'est que je sens pas cette montée en puissance. Ils ont la possession, près de 70% de possession. Ils ont évidemment plus d'occasions, mais beaucoup moins que ce qu'ils avaient avant la trêve hivernale. Et là, cette semaine va être très importante. Ils ont un match de Coupe d'Allemagne à Mayence et ils se déplacent à Wolfsburg le week-end prochain. Et donc, ça risque d'être très, très tendu pour le Bayern qui doit absolument puncter, pour employer des expressions allemandes.
Un partout face à
l'Allemagne. Est-ce que tu penses, Polo, qu'ils peuvent avoir la tête à la Champions League? C'est pas allemand, ça.
Je crois pas à ce niveau-là. C'est plus des choix qui sont pas bons, des petits problèmes personnels. Le cas Manuel Neuer qui a empoisonné tout le monde, évidemment. Qui est titulaire? Tu vois, s'il y a quelque chose qui est très important, Gravenberch, le néerlandais, est actuellement le numéro 3 derrière Goretzka et Kimmich à la récupération. On se dit qu'il va être titulaire. Non, Nagelsmann préfère faire reculer Moussiala pour mettre Thomas Müller derrière Choupo-Moting. Et donc, on sait très bien qu'ils sont en train de très très mal gérer ce cas-là. Donc il y a des choses comme ça qui ne vont pas. La communication n'est pas bonne. Quand Nagelsmann dit quelque chose, le directeur sportif à l'émission dit autre chose.
Nagelsmann serait lâché, lâché entre guillemets, enfin ne serait pas autant écouté, serait un peu décrédibilisé par rapport à son arrivée.
Pas par rapport aux joueurs. Le problème, c'est une forme de sécurité que tu vois. Il a le groupe derrière lui, c'est pas problématique. Le problème, d'accord, c'est que t'as les anciens, Salimicic qui est là. Il y a Oliver Kahn, le président, qui sont aussi des anciens joueurs, des anciens grands joueurs, anciens internationaux avec des titres partout. Et eux, ils ont pas la même type de communication. Donc c'est le problème aussi, peut-être aussi un problème générationnel entre la nouvelle génération de joueurs. Paul Nagelsmann, il a 35 ans non plus. Hein. C'est pas l'ancienne génération. Mais honnêtement, le point de Francfort, il est pas immérité. Tu sens que le Bayern peut faire beaucoup mieux, mais ça veut pas. Et quand ça veut pas, en Allemagne, on n'aime pas ça.
On est à 2 semaines et demie du huitième de finale aller face au Paris Saint-Germain. Polo, je te reprends dans un instant. J'ai des questions qui tombent pour toi en direct sur le Direct Studio dans un instant. Je vais te les poser. Hein. C'est ça aussi l'after, donc ne bouge pas. L'Espagne, Fredo, le Barça qui s'impose à Gérone 1-0, mais Dembélé qui sort blessé. Quelles sont les nouvelles ce soir?
Ben, elles sont pas bonnes. À la 25e minute, il a dû être remplacé. Ousmane Dembélé, lésion à la cuisse gauche.
Non.
Ouais. Ouais. Cuisse
gauche. Longtemps.
Lésion. C'est un mois quoi. Voilà. Un mois. Alors, les mauvaises langues vont dire encore. Non, pas encore. Ça faisait très longtemps que c'était pas blessé.
Ouais, c'est ça.
Je crois même que depuis que Xavi est là, depuis un peu plus d'un an, il ne s'était jamais blessé. Alors qu'au tout début au Barça, vous rappelez, il avait manqué les trois quarts des matchs parce que, en tout cas, il avait une hygiène de vie qui favorisait les lésions musculaires.
Oui, je me disais, il y a quelques semaines, ça, on disait, depuis plus d'un an, pas de blessure et pas de retard à l'entraînement. On disait,
ouais, et voilà. Alors là, il s'est blessé, il joue beaucoup. Mmh. C'est la typique blessure d'un, ça arrive, hein, même quand on a une très bonne hygiène de vie, quand on est un sportif de haut niveau, ça arrive qu'on se fasse ce genre de blessure. Donc là, c'est une blessure qui est très handicapante pour le Barça. Parce qu'à un mois d'arrêt, il y a des matchs importants.
Ouais, et puis il a fait le mondial et
ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça peut être aussi une blessure liée à la fatigue, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Il est allé très loin, il est allé jusqu'à en finale en mondial. C'est peut-être une erreur de Xavi. Alors, mais Xavi n'a pas forcément les moyens. Il l'a pas beaucoup géré. Hein. Le Barça a tellement besoin de Dembélé. Il est vraiment l'élément différenciateur de cette équipe du Barça. C'est difficile de se priver d'Ousmane Dembélé.
Donc à son retour du mondial, il lui a laissé quoi, 10 jours à peine.
À peine, ouais, on l'a revu très vite. Hein, donc Ousmane Dembélé. Après, c'est une déchirure musculaire. C'est pas.
Il va revenir et puis on espère qu'il va pouvoir enchaîner la fin de saison.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même inquiétude qu'il y avait au début de sa carrière au Barça, quand il rechutait constamment. Là, non, c'est une blessure. Une fois depuis un an, on ne va pas trop s'inquiéter. Pour un Barça qui a Alors justement, j'ai besoin de votre vision des choses, vous les fouteux, parce que le Barça joue mal, mais gagne à Gérone, 1-0. Je me dis, c'est pas bien parce qu'il joue pas bien, et c'est inquiétant. Sauf que ce match-là, il y a 6 mois, il gagnait pas, et là, il gagne. L'autre jour, contre Retafé, il joue pas bien, et il gagne. Donc, est-ce que c'est pas bien, finalement, que même quand le Barça est dans un jour sans, il arrive à gagner, à prendre les 3 points?
C'est sûr que c'est bien, même. C'est sûr, mais bon, après c'est ça, ça a un nom. Ça s'appelle la qualité individuelle, en fait. À partir du moment où t'es pas bien, c'est là où tes individualités. Ce soir, c'est Pedri. Ça a quand même forcément souvent été Lewandowski ou Dembélé. Mais voilà, il suffit d'un joueur qui est au-dessus du lot fasse la différence et ça te permet de résoudre une situation, comme disent les Portugais.
Mais ça veut dire aussi que le Barça est capable aujourd'hui de faire le dos rond, de passer, de résister quand ça va pas très bien.
Mais c'est une force. C'est une force. Hein.
C'est une force.
Et le Barça qui prend 6 points d'avance sur le Real qui jouera demain face à la Real Sociedad.
Et en plus, le Barça qui a été privé 3 matchs en championnat à cause d'une suspension de Lewandowski, 3 matchs, 3 victoires. Donc ils ont passé sans encombre cette absence qui est quand même ultra importante parce que c'est le meilleur buteur de cette
équipe. Et je me connais juste Fred, arrière droit toujours.
Arrière droit et puis il s'installe. Hein.
Ouais.
Il s'installe vraiment là. Il est bon ce soir.
Qui l'a mis en premier là, Deschamps ou Xavi?
Xavi.
Xavi. Parce qu'en fait, il est arrivé, le premier match que Jules Koundé a disputé avec le Barça en début de saison, c'était latéral droit. Alors parfois, il a joué très très peu, mais il a parfois joué dans l'axe. Mais en général...
Quand le Barça a le ballon, est-ce qu'il joue vraiment haut ou est-ce qu'il fait partie des 3 joueurs qui restent et il laisse un peu plus de liberté à Marcos Alonso?
Je trouve qu'il a... Il prend du plaisir à monter quand même, hein. Enfin en tout cas c'est l'un des joueurs qu'on voit le plus sur le terrain.
Les gars, un mot avec Polo là, je vous le disais tout à l'heure, des questions qui tombent sur le Direct Studio. Sergio qui écrit question pour Polo, comment était le match d'Ajorque aujourd'hui pour sa première titularisation, lui qui vient d'arriver?
Alors,
à Mayence.
Il a fait le boulot titulaire quasiment tout de suite, donc ce fut une petite surprise. Il a un petit souci en ce moment, c'est qu'il joue pas avec ses partenaires, ou plutôt ses partenaires ne jouent pas avec lui. Donc en fait, avec sa taille évidemment, c'est ce qu'on appelle un jeton de tank, on en a parlé cette semaine, hein, donc un attaquant de pointe, et puis
c'est Bas Dost.
Oui, c'est ça, c'est Bas Dost, et en fait, il bosse bien parce qu'il embête les défenses, et il donne des espaces à ses partenaires. Il faudrait juste que ses partenaires, lorsqu'il est très bien démarqué, lui donnent le ballon, parce qu'il a été énervé. Maintenant, Mayence s'est baladé contre Borum 5-2, donc voilà, c'est bien pour une première, mais il faudrait que Onisiwo, notamment auteur d'un triplé, parfois, lorsqu'il est mal placé, donne plutôt le ballon à York, plutôt que de faire des exploits individuels.
Et puis, un message d'Emmy, mais je vais juste le dire, on n'aura pas le temps de répondre, qui nous dit qu'elle est très heureuse du match nul de l'Eintracht et surtout du but de RKM9, les franchises à Francfort assurent. Voilà, après il y avait une, elle nous parlait de la mise à pied de Bobic.
Si, ça c'est très important, mais je pense qu'on développera ça lundi.
Et voilà,
c'est plus du sport en fait.
Lundi, 20h, 22h comme toutes les semaines, Génération After avec toutes les drôles de dames autour de Nico Jamin, Polo Breitner, Fred Hermel. Merci beaucoup les gars.
Merci
les amis.
Salut à vous et merci également à Kevin Diaz et Lionel Charbonnier. C'est fini pour ce soir les gars.
Salut Thibaut, salut Kevin.
Passez une bonne soirée. Merci à Max, à Toto en régime. Merci surtout à vous d'avoir été là, à l'écoute tout simplement, au 32-16 aux commentaires. L'After revient demain pour le Paris Saint-Germain face à Reims. Et en même temps, on aura le handball, l'équipe de France en finale du championnat du monde. On espère avoir une équipe de France qui gagne en finale. Bonne nuit l'équipe.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.